Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Philippe Laburte-Tolerain.
Bonjour, chers auditeurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Claude Agege, professeur au Collège de France, célèbre linguiste, qui veut bien nous faire le plaisir de parler un peu devant ses micros. Bonjour Claude.
Bonjour Philippe.
Vous savez que j'avais une question à vous poser, qui n'est peut-être pas très intelligente, mais vous êtes d'un côté un champion de la francophonie, et d'un autre côté, vous êtes partisan du plurilinguisme, et vous trouvez qu'il est très bon de pratiquer deux langues dès la petite enfance, si on le peut. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce paradoxe apparent ?
En me posant une telle question, mon cher Philippe, vous vous faites l'écho, et vous qui avez tant d'esprit critique et de subtilité, d'une opinion commune que je ne récuse pas, que je ne considère pas comme condamnable, et qui se justifie par un certain nombre d'attentes, à savoir qu'il peut paraître en effet contradictoire de défendre le français, de vouloir le promouvoir, et en même temps de promouvoir la diversité des langues. Le biais entre ces deux types d'entreprises, et qui rend parfaitement compatible aussi bien l'entreprise elle-même que leurs résultats, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde transi d'anglophonie, où l'anglo-américain est en train de devenir une menace de mort, quasiment, non seulement pour les langues peu aidées par une vieille tradition d'écriture ou de culture ou de choix politique, mais même pour les langues dites « grandes » entre gros guillemets, comme les principales langues de l'Europe occidentale, la pression de l'anglais est telle que l'unique façon de, non pas de lui tenir tête, car il ne s'agit pas véritablement d'engager un combat, une offensive, mais de proposer un autre choix, eh bien, c'est de rallier autour d'une langue qui ne soit pas l'anglais un certain nombre de suffrages. Il se trouve que le français, et par sa tradition, par son histoire, par sa très forte diffusion à l'époque classique et même une partie de l'époque médiévale, dans toute l'Europe et dans une partie de l'Orient et même du monde, le français est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je ne dis pas que je m'en félicite, j'aimerais que ce soit aussi le cas d'autres langues, la seule langue qui rallie autour d'elle un très grand nombre de demandes, puisque ce qu'on appelle l'OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, regroupe aujourd'hui plus de 50 pays. Je reviens de Bucarest, enfin quand je dis je reviens, c'était en fin septembre. Je suis allé en fin septembre à Bucarest, c'était le 12e ou 13e sommet de la francophonie. Depuis sa création, il y a une trentaine d'années maintenant, 25 ans, le club est un mot français depuis 1731, Voltaire l'employait déjà. Le club francophone réunit sur le français un nombre considérable de pays. Beaucoup d'entre eux sont africains. Au point que, de manière assez absurde, un certain nombre de gens à la culture inachevée, ici et ailleurs, ont fait du mot francophone une sorte de synonyme d'africain, vous le savez. C'est complètement absurde. Non. L'Afrique dite francophone, elle parle le français, mais les francophones, ce sont aussi les Français de France, du Québec, de Suisse romande et de Belgique wallonne. Un francophone, c'est un bonhomme qui parle le français.
Naturellement.
C'est tout. Mais vous connaissez cette synonymie absurde entre francophone et africain. Elle est due, enfin, elle s'explique sans aucunement se justifier, au fait que un nombre important de pays de la fameuse OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, sont des pays africains. Mais il y a aussi, je viens de le rappeler, la France, trois importants territoires francophones qui ne sont pas des pays, des nations, au sens des États, au sens hégélien du terme, mais des nations, tous les trois, le Québec, la Suisse romande, la Belgique wallonne, et puis il y a aussi un grand nombre d'autres pays, avec toutes sortes de situations. L'Algérie, par exemple, où on sait bien que 90% parlent très bien le français, n'en fait pas partie pour des raisons connues de relations très perturbées, d'amour-haine politique depuis très longtemps avec la France. L'Algérie, donc, n'appartient pas à cette cinquantaine de pays, alors qu'elle est évidemment un pays très largement francophone.
Mais on y parle très bien français. J'en ai eu l'expérience moi-même, si je peux me permettre de placer. N'est-ce pas ? J'ai donné des cours en français, au cœur de la Sicile, à Troina. Et nous avons fait d'ailleurs sur Canal Académie une émission concernant ce consortium euro-méditerranéen des universités qui a pour langue d'usage le français. Et alors j'étais émerveillé de voir comme les Algériens parlaient bien français. Nous avions des Palestiniens, des Tunisiens, etc.
Les Tunisiens parlent très bien français aussi.
Ah, les Tunisiens parlent aussi
Les Marocains aussi.
Oui, les Marocains, donc évidemment des Italiens qui, eux, avaient appris le français, mais ils l'avaient appris admirablement. Quand ils le savent, c'est d'une façon tout à fait élégante et pertinente. Alors, j'étais là justement parce que ce QEM, ce consortium des universités euro-méditerranéennes, confère un master en français qui porte sur l'éthique appliquée au développement. Et nous avons donc des étudiants de haut niveau qui tous parlaient français.
C'est bien.
Oui, alors voilà.
Alors voyez, mon cher, encore une fois, en attendant une autre question s'il y en a, je résume en deux mots.
Oui.
Il n'est nullement contradictoire de promouvoir le français d'une part et en même temps d'autre part de prôner la diversité, car le fait même que sont adhérents à la francophonie un certain nombre de pays extrêmement divers qui représentent autant de langues montre que ceux qui se regroupent autour de la francophonie se regroupent en fait au nom de la diversité. Le français étant certes un point commun de ralliement entre eux, mais le français n'ayant plus le moyen d'être une langue qui est imposée aux gens comme autrefois, eh bien il est devenu paradoxalement le symbole de la diversité. C'est pourquoi je ne peux pas vivre comme une contradiction de prôner à la fois les deux.
Oui, mais ce que, si j'ai bien compris, ce que vous réclamiez, c'est qu'on apprenne très jeune une seconde langue.
Mais oui.
Comment est-ce que c'est possible pratiquement ?
C'est très simple. Il est question maintenant, en Europe occidentale et méridionale, malheureusement, la menace se précise d'introduire l'anglais comme langue obligatoire. Et alors moi je dis, on ne doit pas introduire l'anglais comme langue obligatoire, on doit introduire deux langues obligatoires, pas une seule, mais deux. Parce que si on dit que c'est l'anglais officiellement, bon, l'affaire est jouée, c'est terminé. Si on est hypocritement à défendre l'idée d'une langue obligatoire, les familles se précipiteront sur l'anglais étant donné sa pression. Mais si on dit qu'il y a deux langues obligatoires, une des deux, malheureusement, aussi longtemps que l'anglais sera une langue importante d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les États-Unis auront la puissance d'aujourd'hui, ce qui n'est pas évident. Je ne veux pas être méchant pour nos amis américains, mais le mot de Valérie sur le gouffre de l'histoire qui est assez grand pour tout le monde laisse penser que bon, la puissance américaine, dont nous sommes tributaires, dont nous nous réjouissons, nous en sommes même solidaires, comme toutes les puissances, voire la puissance romaine autrefois, n'est pas quelque chose d'immortel ou d'éternel. Bon, cela étant dit, tant que l'anglais a la domination que l'on connaît, si on ne donne pas aux enfants deux langues obligatoires depuis l'enseignement primaire précoce à apprendre, la seule langue qu'on va désigner ou non nommément sans hypocrisie comme l'anglais, ou qu'on s'abstienne de la désigner en disant une langue, quelle qu'elle soit, ce sera l'anglais que choisiront goulûment les familles en majorité dans toute l'Europe, eh bien l'autre, ce sera obligatoirement une autre que l'anglais. C'est pourquoi je prône le bilinguisme obligatoire, pour qu'il y ait un équilibre, que l'anglais, puisqu'on peut faire autrement, soit là, certes, mais en même temps une autre langue. Et quand on m'objecte que ça peut poser des problèmes, je ne sais pas moi, de dysesthésie, de personnalité perturbée,
oui,
etc.
C'est l'objection qu'on fait, oui.
L'objection que l'on fait, elle est d'ordre neurophysiologique, je dirais. Elle est absurde. Nous savons, par les recherches que l'on fait partout en laboratoire, des très bonnes équipes canadiennes, françaises, allemandes, l'ont prouvé, que non seulement les enfants ne sont pas écrasés dans trop grand nombre de disciplines à apprendre, mais que leurs neurones et leurs capacités les capacités d'absorption de leurs synapses nerveuses de connaissances sont en état, dans la totalité des systèmes d'enseignement primaire européen, de sous-exploitation. Ils peuvent apprendre deux langues. J'ajouterais même, comme me disent mes camarades du Collège de France, dont certains de prestigieux prix Nobel, qui m'ont dit quand tu es à la radio ou à la télévision, quand tu parles publiquement, n'oublie pas de plaider pour l'enseignement des sciences, je le fais volontiers. On devrait donner aux enfants, je ne suis pas scientifique, mais je respecte ces éminents collègues et amis scientifiques, on devrait donner aux enfants, comme le font les Japonais, qui font de leurs enfants des petits ingénieurs, des petits génies en puissance, une initiation à la curiosité de la recherche scientifique, en même temps qu'aux langues diverses. Les enfants ne demandent que ça. Bon, je laisse le plaidoyer qu'il ne m'appartient pas de faire pour les sciences, mais je le fais au passage. Mais en tout cas, ce qui concerne les sciences concerne aussi les langues. Il n'est pas vrai que l'enfant soit accablé de trop de connaissances. C'est juste le contraire, il peut en apprendre plus.
Mon cher, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une des erreurs de nos pédagogues. Seulement, il faut voir ce qu'on a voulu faire de l'enseignement primaire. On a voulu qu'il soit ludique. Hein, j'ai été à une session pour je ne sais quel anniversaire imaginaire, d'ailleurs, de la Sorbonne, avec...
La fugue en Sorbonne mineure ?
Non, c'est un peu ça, oui. Mais il y avait là les ministres de l'éducation d'Allemagne, d'Angleterre, etc. Déjà, j'ai jamais vu.
Il n'y a pas de ministre allemand.
Il y avait un Allemand, justement.
D'un land, parce que chacun des Länder a son propre ministre, il me semble, et peut-être en allemand.
Il y avait un ministre de l'éducation qui était allemand.
Ah bon.
Monsieur Attali a exposé longuement que l'enseignement primaire français était le meilleur, sauf sur un point, c'est que les instituteurs n'avaient pas compris qu'il devait être ludique et créer une atmosphère de joie, de détente, de facilité, inventer des distractions pour les enfants. Alors le ministre allemand, en tout cas, a dit, monsieur le conseiller, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des connaissances à transmettre?
Bonne réponse.
Et M. Attali s'est mis en colère, comme envers un mauvais élève, en lui disant « Mais vous n'avez rien compris, à quoi ça sert? Les connaissances changent continuellement. Maintenant, nous avons des calculatrices, nous avons des correcteurs d'orthographe, à quoi ça sert ?» Voilà. Alors, je ne dis pas ma consternation et celle d'une partie de la salle.
J'ai une position sur ce point, mon cher Philippe. Bien entendu, loin de moi de condamner en bloc et sans autre le ludisme, ou en tout cas la tentation de donner aux enfants le goût du jeu, mais je suis en effet sur ce plan, au risque de paraître conservateur, totalement de l'avis que l'acquisition des connaissances n'est pas un jeu.
Mais oui.
L'acquisition des connaissances est une entreprise sérieuse qui demande un effort.
Moi, je partage l'avis de penseurs comme George Steiner, qui pense qu'il y a des capacités de l'enfant qu'il est très important de mettre en œuvre et d'activer le plus tôt possible dès qu'ils en sont capables. Parce qu'après, ce sera trop tard.
L'école est un lieu où le jeu est nullement absent.
Bien sûr.
Le but de la récréation, le but des activités extrascolaires, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas strictement les heures d'enseignement, est pour l'essentiel ludique, ou en tout cas de divertissement au sens pascalien. Bon, alors que l'on veuille introduire un paramètre ludique au sein même de l'acquisition des matières, des disciplines enseignées, alors là, je crois qu'au point trop n'en faut.
Mais bien sûr. Alors, si vous voulez, j'ai mon expérience africaine pour ça. Vous parliez tout à l'heure des États francophones. Au Cameroun, on parle un français actuellement meilleur qu'en France.
Je ne m'étonne pas.
Et l'administration écrit de façon pure, claire, distincte, ce qu'on ne fait plus dans nos administrations françaises.
Oui.
Hélas. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'à l'école, ils ont été pris en charge selon les méthodes traditionnelles, alors que leurs parents étaient à la fois analphabètes et parlaient leur langue d'origine, sans aucune référence au français, mais ils ont eu les instituteurs qui leur faisaient faire la dictée tous les jours. Et la dictée, ce n'est pas tellement l'orthographe qui compte, c'est l'acquisition du vocabulaire, n'est-ce pas? Donc moi, je me suis fait huer par tout un amphithéâtre à la Sorbonne, parce que je disais, pour l'intégration qui fait défaut actuellement dans nos banlieues, etc., eh bien, il faudrait rétablir le droit à la dictée quotidienne, parce qu'il est interdit actuellement aux instituteurs, il a été interdit en tout cas, de faire plus d'une dictée par semaine. C'est notoirement insuffisant. Nous avions la dictée tous les matins, et on apprenait tous les matins quelques mots à partir de bons auteurs qui étaient Alphonse Daudet ou Tarot, ou je ne sais pas qui les bons auteurs de la fin du 19e siècle. Bon, un peu démodé. Mais ce vocabulaire à qui servait, n'est-ce pas? Et au certificat d'études, on avait des gens qui parlaient un français raffiné quelquefois. Bon. Alors donc ça, ça a été hué par la Sorbonne qui était alors peuplée. C'était des journées de Nathan, vous savez, pédagogique.
Je crois que j'ai assisté à une des
entrées. Oui, sous la présidence de Bentolila qui lui pense bien sur tous ces.
Il y avait Georges Steiner à une d'entre elles.
Oui, c'est ça.
Oui, j'étais à une d'entre elles.
Oui, bon. Et à la sortie, j'ai eu deux réconforts. Le premier, c'est un jeune instituteur qui est venu me dire « Écoute, si tu veux, viens faire des dictées tous les jours à ta fille. » Bon, c'était sympa. Et deuxièmement, un vieil inspecteur primaire qui m'a dit « Vous avez compris ce qui s'est passé ?» Oh, j'ai dit « C'est les idées 68 tardes que le jeu doit... » Oh, il dit « Ça n'a rien à voir avec l'idéologie, ça a à voir avec la flemme, parce qu'on ne peut pas avoir à corriger une dictée tous les jours. »
Mon cher, il me plaît de vous entendre mentionner le Cameroun, où vous n'oublierez sans doute pas que nous eûmes le plaisir autrefois de nous rencontrer.
Oui.
Eh bien, c'est là que date notre amitié.
Exactement. Vous avez fait le plaisir et l'honneur de descendre dans mon appartement.
Bon,
et qui en a gardé certainement un parfum.
Oui.
Bon, écoutez, alors si vous voulez, on peut faire une petite pause, d'accord, si ça ne vous ennuie pas. Alors, je rappelle que nous sommes en train de parler avec Claude Agege et que nous sommes sur Canal Académie. Nous allons faire une pause de quelques minutes.
Thank you.
Eh bien, nous sommes toujours sur Canal Académie et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Claude Agege, un vieil ami de 40 ans environ, mais qui est resté toujours fidèle et que je suis heureux d'interroger sur l'importance de cultiver une deuxième langue étrangère. Et je pense que dans votre esprit, évidemment, cette deuxième langue devrait être le français, à côté de l'anglais.
Tout dépend.
Enfin, ça dépend,
non,
évidemment.
Je ne dis pas cela. Si on précise la chose et que l'on consente à l'articuler sur les pays d'Europe, mais évidemment, il faudrait voir ce qui se passe pour bien d'autres pays du monde, on dira que les deux langues qu'il serait bon de mettre au programme d'enseignement primaire obligatoire de deux langues, ce seraient deux langues en fonction du pays où on se trouve. En Allemagne, ce serait l'allemand plus une des langues occidentales, en Espagne, l'espagnol plus une langue occidentale, et donc il y aurait une liste de langues que l'on peut constituer tout de suite. D'ailleurs, ce sont les principales langues qui ont eu, à un moment ou à l'autre de leur histoire, un moment de diffusion mondiale, ou européenne au moins, et répondent à ce critère, avant tout le français, il faut bien le dire.
Ah bah oui, depuis le XIIe siècle.
Depuis le XIIe siècle,
oui,
absolument,
oui.
Relayé par l'époque classique.
Bah oui, quand on pense que François d'Assise, c'est parce qu'on parlait français
absolument,
chez lui. Hein.
Absolument.
Oui.
L'époque classique, la majorité de Louis XIV, 1661, et son début, le congrès de Vienne qui met fin à ce que les plus bonapartistes appelleront l'épopée, d'autres anti-bonapartistes, l'aventure, et d'autres plus neutres, l'épisode napoléonien, et l'autre bout. Donc entre ces deux, 1662-1815, presque deux siècles, un siècle et demi au moins, en plus, de diffusion européenne et dans une certaine mesure mondiale ou proche orientale du français. Dans le français, un titre à être une langue importante en Europe du fait de son importance comme langue de diffusion mondiale à une époque. Je dirais, sans insister sur la nostalgie que cet effroyable gâchis peut susciter, que le fameux traité de Paris, si peu connu, je dis qu'il est fameux, mais beaucoup de gens, même cultivés, n'en savent pas un mot, 1763, c'est le traité qui s'inscrit dans la ligne des mots ridicules du très grand Voltaire sur les arpents de neige.
Ah oui.
On n'a pas du tout perçu ce que ça voulait dire. Et lorsque la France laisse à la Grande-Bretagne, après une guerre très cruelle au traité de Paris, les gigantesques territoires qui s'appelaient Louisiane, qui n'étaient pas l'État à malaria qui correspond à l'embouchure du Mississippi, un État pauvre dans lequel la capitale a eu récemment d'horribles raz-de-marée, mais un gigantesque territoire qui allait jusqu'au Nebraska, Montana, South Dakota.
Prenait en écharpe toutes les États-Unis actuelles.
Oui. Très exactement, merci pour l'image. Elle est très exacte. Eh bien, ce territoire gigantesque, on peut refaire l'histoire comme on veut, c'est absurde, mais imaginait-on, cher Philippe, ce que serait la France d'aujourd'hui, la monde aujourd'hui, si ce territoire immense parlait le français. Le hasard a voulu que ce soit l'anglais. Il s'en est fallu de très peu que ce soit. Il se trouve que les délicatesses du marquis de Lafayette nous ont coûté très cher, car Washington, selon ce que l'on dit, lui aurait proposé, en reconnaissance de l'aide française apportée, du concours français apporté à l'indépendance des États-Unis, lui aurait proposé que les États-Unis, les jeunes États-Unis, et tout jeunes, adoptassent le français.
Vous savez,
dit, mais non, mais non.
Mais non, mais il y en a plusieurs de ces fausses pudeurs en France, en particulier pour le poule charbon acier qui était bon. Vous avez su cette histoire-là ?
Non, dites-la moi.
C'est que les Allemands ont proposé qu'on prenne le français comme langue commune.
Et à cette époque, c'était mûr.
Et c'était tout à fait mûr, mais ce sont les Flamands qui s'y sont opposés.
Non, vous avez des raisons.
Bon, bien sûr, ils avaient des raisons politiques de s'y opposer. Mais les Français n'ont rien dit. C'est-à-dire que si les Français avaient insisté à ce moment-là, on était majoritaire.
Mon cher, me permettez-vous de greffer une chose sur ce que vous dites ?
Oui.
Permettez-moi de revenir à l'OIF. Monsieur Abdou Diouf, qui a été longtemps successeur du grand Léopold Sédar Senghor, un des maîtres qui ont tenu sur les fonds baptismaux la francophonie, qui a été très longtemps après Léopold Sédar, président du Sénégal, est aujourd'hui secrétaire général de la francophonie. Eh bien, un de ses leitmotivs, pour nous surprendre, enfin pas pour vous et moi, mais pour surprendre les gens qui l'ignorent, un leitmotiv incroyable, c'est « Nous souhaiterions que les Français promeuvent le français autant que nous. » Les Français ne font rien pour le français. Mais qui fait ? Les autres pays.
Mais je le sais.
Surtout africains.
Mais oui, mais enfin aussi les Canadiens, les
Suisses, bien entendu.
Etc. Bon, alors... Donc, vous aviez parlé donc parmi ces langues possibles du français, vous en avez d'autres certainement à citer, qui ont un rayonnement mondial.
Ont eu un rayonnement mondial, mais moins que le français. L'espagnol, l'anglais, l'italien et dans une certaine mesure l'allemand. Alors, je le reprends très rapidement. Vous permettez, j'ai le temps.
Je vous en prie, vous avez tout le
temps. Je n'ai pas disserté longuement sur chacune.
Mais non, vous avez un quart d'heure devant vous.
L'espagnol, aucune n'est comparable, je ne dis pas ça parce qu'on est français, mais aucune n'est comparable en degré de diffusion et en importance aux Français pour des raisons historiques. L'Espagne n'a jamais, contrairement à la monarchie française et à la République française, axé sa politique sur une diffusion de sa langue en Europe. En revanche, par tradition très atlantique, étant un pays de très grands et de géniaux découvreurs et navigateurs, l'Espagne a fait ce qu'il fallait pour que l'on ait les résultats d'aujourd'hui, c'est-à-dire un gigantesque continent, du Mexique en passant par l'Amérique centrale jusqu'à la Patagonie, qui est hispanophone ou ibérophone, si on compte le Brésil, lusophone. L'Angleterre, à certains égards, en a fait autant. La politique de la monarchie britannique, qu'est-ce que c'était ? C'était que un certain équilibre s'instituant entre les puissances, que l'Espagne fût pas plus, que les Habsbourg de Vienne fussent pas plus puissants que ceux de Madrid, que le roi de France ne s'assurera pas les prérogatives sur toute l'Europe. Dans la mesure où la duplicité et la sournoisie remarquables des successifs gouvernements de sa majesté britannique parvenaient à maintenir un équilibre, la Grande-Bretagne n'avait pas plus d'ambition, elle ne s'intéressait pas à l'Europe plus que cela. En revanche, elle était ce qu'elle est encore, atlantique. Elle regardait vers l'Ouest. C'est pourquoi on peut dire, quand on voit la décadence considérable par rapport à l'immense empire britannique et à la puissance, la première mondiale qu'elle a été jusqu'à la première guerre, que la Grande-Bretagne aujourd'hui peut se consoler du déclin de sa puissance d'autrefois en considérant que les États-Unis sont une nouvelle Grande-Bretagne. C'est une autre Grande-Bretagne aujourd'hui. C'est pour ça que la politique de la Grande-Bretagne, on lui reproche assez, apparaît tellement suiviste. C'est une émanation, c'est bon. Alors, sa politique n'a jamais été européenne, en dehors de ce que je disais sur...
Bon, pourtant, Oscar Wilde a dit...
Mais c'est un Irlandais.
Oui, enfin...
Important.
Nous, les États-Unis et la Grande-Bretagne ne sont séparés que par la langue.
Oui, bon, c'est une plaisanterie de...
C'est une boutade.
D'une boutade d'Irlandais.
Oui.
Et alors, quant à l'Italie, il y a eu, à l'époque fasciste, une sorte de révolte militaire, de désir d'affirmer la suprématie. Mussolini a animé et excité des foules qui ne rêvaient que d'aller battre avec le fameux maréchal Badoglio et d'autres, ces malheureux Abyssins et Éthiopiens, pour se constituer sur le tard un empire colonial à son tour. Bon, tout cela a fait long feu, bien que à Mogadiscio et à Addis Abeba, les élites parlent encore italien. Donc il y a eu une diffusion.
Oui. Moi, j'ai été extraordinairement frappé en Éthiopie de voir qu'en si peu de temps, l'Italie a posé de telles empreintes que partout, on vous sert des pâtes.
Absolument. Voilà. Absolument. Ils ont posé d'importantes... La gastronomie, mon cher, vous avez raison d'en parler, étant pratiquement autant, sinon plus que la langue, un très important élément de pression culturelle, capital. Oui. Bon. Alors, l'Allemagne, maintenant. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi pas plus que l'Italie.
Mais attendez, l'Italie, il y a quand même, il faut dire qu'il y a une superbe littérature et puis un prestige de l'italien.
Oui, mon cher, mais
aux âges classiques.
C'est
nous.
Vrai, oui. Mais je suis en train en ce moment d'examiner les titres que les langues d'Europe ont à un choix ou à une diffusion pan-européenne. La beauté de la littérature, la contribution immense artistique et culturelle de l'Italie n'a jamais été vraiment celle de la langue italienne au point où cela a été sous la monarchie française pour le français.
Oui, oui.
Voyez. Et alors, l'Allemagne, maintenant, ce qui est amusant, ce qui est intéressant, enfin, je fais une parenthèse pour revenir à ce que vous dites. L'Italie comme l'Allemagne, nous le savons, ce sont des pays, contrairement à la France, dont l'unité politique est tellement précoce, tellement ancienne, une des plus précoces de toute l'Europe, bien sinon sûr. Du monde. Dès avant récemment Strasbourg, il y a quasiment une France préfigurée, pas avec ce nom-là, avec ses frontières d'aujourd'hui. Bon, eh bien,
il y a quand même l'Empire de Chine, hein, bon.
Oui, mais c'est une Chine beaucoup plus petite que celle d'aujourd'hui. Ce qu'on appelait les barbares était quand même... Il y avait la plaine du fleuve jaune et la plaine du fleuve bleu. C'est-à-dire ce qui aujourd'hui est autour de Pékin et ce qui est autour de Canton et de Shanghai. C'est-à-dire finalement des éléments très limités de l'immense Chine d'aujourd'hui. C'était ça la Chine impériale.
D'accord.
Ainsi qu'une partie du Shantung qui est la province d'origine de Kongfutsu, latinisé en Confucius.
C'était ça.
Bon, cela étant dit... L'Allemagne, elle, qu'est-ce qu'elle a comme situation ? Ben, autre chose, l'Allemagne n'a jamais eu véritablement de diffusion, sa langue et sa culture, diffusion en dehors d'Europe centrale. Et je me rappelle un jour une insolence terrible d'un historien malin commentant au cours d'un congrès auquel j'assistais par hasard les décisions du congrès d'Agadir. Vous savez, ces nombreux congrès qui ont suivi l'effondrement du Second Empire où la France étant humiliée par la défaite militaire en 70, a dû affronter les revendications de Bismarck et du Kaiser, disant « Mais après tout, vous allez vous tailler d'immenses empires coloniaux, mais nous qui vous avons vaincus, pourquoi on n'aurait pas part du gâteau en Afrique ?» Les Allemands vivaient ça. Et quelqu'un répondit, avec une impertinence rare, chose très vraie, « Mais écoutez, à quoi ça sert ? La colonie de l'Allemagne, c'est l'Europe !» Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que, depuis les chevaliers teutoniques jusqu'à Hitler, pour citer les épisodes de grande violence, heureusement séparés à leurs évidences par des épisodes plus pacifiques, l'Allemagne a toujours vécu ce qu'on appelle si justement aussi bien le Lebensraum que le Drang nach Osten. Le Lebensraum, oui. Ce besoin d'espace vital, c'est aussi un Drang nach Osten, c'est-à-dire une poussée vers l'Est qui rencontre nécessairement, d'où le choc la plus gigantesque, la plus tragique, la plus extraordinaire des batailles du monde, c'est-à-dire Stalingrad, qui rencontre une autre expansion, celle d'un pays qui est pris 6 mois sur 12 par les glaces et qui, lui, veut des mers au sud. Les tsars l'ont toujours fait, les bolcheviks aussi, et des territoires à l'ouest. Donc ce choc, qui est presque une destinée entre les deux immenses empires russes et allemands, il fait que les langues régionales, que sont l'allemand et le russe, elles ont une très grande importance à l'échelle des régions où elles existent. Le russe est répandu dans toutes les républiques musulmanes d'Asie centrale, aujourd'hui indépendante, et jusqu'en Sibérie. Et l'allemand, il suffit de voir ce qui s'est passé à Budapest et à Prague. Une fois oublié, c'est un balancier depuis des siècles comme ça, une fois oublié les violences du nazisme, les Allemands, les Européens centraux, sont revenus à l'allemand. Et quand vous êtes dans les grandes capitales, vous voyez des gens d'élite qui parlent parfaitement l'allemand. Il y a une empreinte germanique très forte. C'est ça le domaine de l'allemand, c'est l'Europe.
Oui, oui, mais ça m'a frappé dans les pays slaves et jusqu'en Turquie, d'ailleurs.
Ah, ben ça, depuis très longtemps.
Oui, depuis.
Parce qu'en 14, la Turquie. Et puis, les travailleurs, ce sont leurs Algériens.
Oui, bien sûr. Alors, c'est autre chose. Il y a beaucoup de francophiles et de francophones en Turquie, mais il y a encore plus de germanophiles.
Oui. C'est une des raisons qui font. C'est un autre débat, mais capital, qui nous occupe aujourd'hui, que dans le problème si controversé, à juste titre, de la candidature turque à l'Europe unie, les Allemands sont en appui pour les Turcs.
Ah oui,
un appui modéré, parce que bon...
Bon, nuancé, disons.
Enfin, nuançons pas ce débat qui est important, mais qui est un autre débat.
Oui. Donc, alors, vous donnez un label de deuxième langue, quand même, aux Français, l'espagnol, l'italien, l'allemand.
Absolument.
Oui.
Le portugais, on peut ajouter le portugais, le néerlandais et le grec, pour ajouter des langues qui sont celles de pays de l'Union
européenne. Oui.
Européenne. Quel titre ont-ils? Un titre moins important. Le Portugal, commençons par lui. Je vais essayer de parler de la manière la moins malveillante possible de la Lusitanie et des lusophones. Le Portugal est un pays très étonnant. Quand aujourd'hui on voit le Portugal, en dépit de ce que lui a valu d'entrer dans l'Europe, qu'il a beaucoup enrichi, le Portugal reste un petit pays d'Europe et un pays dont l'économie et même la culture ne sont pas, si vous voulez, à l'échelle de ce qu'on pourrait en attendre. Mais le Portugal, c'est un pays extraordinaire pour une raison. À une époque de son histoire, 14e, 15e, 16e siècle, le Portugal a connu un petit nombre, qui se compte sur les doigts d'une seule main, de navigateurs de génie. C'est ça, oui, l'histoire du Portugal.
Ah, oui.
Et ces navigateurs de génie, ils ont donné au Portugal la lusophonie d'immenses territoires, tout l'immense Mozambique, tout l'immense Angola et surtout tout l'immense Brésil.
Ah, oui.
Alors voilà l'histoire du portugais.
Ah, oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on peut dire que le Portugal a été rendu exsangue par sa colonisation.
Absolument.
Il n'avait pas
les moyens, évidemment.
Les moyens correspondants.
Non.
Et ils ont été ruinés par leur colonie.
Complètement.
Voilà.
Au lieu d'être enrichis.
Et obligés d'être annexés par l'Espagne pour survivre.
Exactement. Mais bien que ça les ait ruinés parce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire face à ce que c'était.
La langue est restée.
La langue est restée, la culture, et a donné lieu à des pays dont au moins un, le Brésil, pourrait devenir un jour un des plus grands, un des plus puissants pays du monde. C'est un pays lusophone.
Bah oui, je sais. Mais...
Une histoire étonnante.
Oui, oui. Et qui préfère, d'ailleurs, quand j'y suis allé, on m'a dit, il vaut mieux que vous parliez français qu'anglais, parce qu'ils sont...
Où ?
Ils se sentent latins. Quand j'étais à Recife, un congrès à Recife...
Eh bien, mon cher, je suis aussi allé à Recife récemment, ainsi qu'à Porto Alegre et Belo Horizonte. Je peux vous dire une chose, je le disais il y a quelque temps dans un de mes bouquins, dans un article du Monde, des imbéciles de représentants d'une très grande entreprise française que je ne vais pas citer, venant à São Paulo pour signer un contrat juteux pour eux, intéressant, ces imbéciles ont fait une chose tout à fait française, ils se sont mis à parler aux Brésiliens en anglais.
Ah, voilà.
Et les Brésiliens, fiers d'être latins, ils allaient signer, étaient si furieux que des PDG français leur parlent en anglais qu'ils n'ont pas signé le contrat. Bien fait pour leur gueule, dirais-je brutalement.
Oui, mais c'est un
mal. L'histoire. Comment ?
Non, non, mais c'est exactement ce qu'on m'avait dit. Ne faites pas la gaffe de leur parler
surtout
anglais.
Pas.
Oui. Enfin bon. Il faut mieux leur parler espagnol.
Mais bien sûr.
Parce que
bien
généralement, sûr. Ils comprennent l'espagnol.
Bah, évidemment.
Bon,
ou français.
Ou français, voilà.
Une langue romane.
Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai parlé français avec un ami qui résumait
en portugais. Enfin, pardonnez-moi d'ajouter un petit codicille. Le mieux est encore de leur parler en portugais.
Ah, bah évidemment.
C'est évidemment. Dans leur langue.
Alors, je sais bien, c'est la chance. Moi, j'ai un collègue, Laplantine, qui parle parfaitement portugais. Il a là-bas une cote extraordinaire.
Hein. Ah oui, ah, ah, évidemment.
Oui. Oui.
Quand je vais au Brésil, je ne parle jamais autrement que portugais.
Et puis,
évidemment.
C'est un homme, d'ailleurs, qui a l'originalité, qui est le propre du Brésil, finalement.
Parce ah que oui.
Oui, au Brésil, il y a vraiment beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, à mon sens.
Sûrement.
Et vrai, effectivement, c'est un pays de présence, de présent et d'avenir.
Nous parlons du Brésil, mon cher. Permettez-moi d'étendre à tout le continent. Tout ce continent latin, qu'il soit lusophone ou hispanophone, ou castillanophone, est considéré par les États-Unis comme son arrière-jardin, comme vous savez, ou son arrière-cour. Mais ces élites, pas seulement universitaires, intellectuelles, mais aussi économiques, elles ne rêvent que de voir l'Europe s'engager un peu plus pour, comment dire, galvaniser leur latinité. Mais les gens ne le font pas. L'Europe elle-même songe qu'à s'américaniser au lieu d'exploiter ce qu'elle a de latin et ainsi de servir à l'Amérique latine.
Non, ce que je vois d'admirable chez mes amis brésiliens, c'est qu'ils sont allés faire des études aux États-Unis, naturellement, pour être considérés là-bas, mais en même temps, sans perdre leur attachement, soit à la France, soit à la
Ce qu'ils sont allés chercher aux États-Unis pour beaucoup d'entre eux dans l'entreprise, c'est une certaine technicité.
Oui,
ils ont appris les sciences économiques et de gestion. Et oui. Ils ont bien appris, ça les a pas amenés à s'américaniser.
Alors, vous disiez le portugais.
Alors, le néerlandais et le grec, je disais, les titres des langues autres que les grandes langues d'Europe occidentale, je disais, à être des langues d'apprentissage en Europe. Pas le néerlandais, le néerlandais d'une certaine façon, mais bon, il y avait l'Indonésie, c'est-à-dire un immense empire où les élites parlent encore. Les parents et les grands-parents sont encore batavophones, si je puis dire.
Mais c'est au Vietnam, les vieux parlent français encore. Bon.
Mais la France, avec le lycée de Hanoï, qui est un lycée admirable qu'on voit encore aujourd'hui, et les efforts faits à l'ancien Saïgon, au Chi Minh Ville, avaient beaucoup fait pour répandre sa langue et sa culture. Tandis que la Compagnie des Indes, car ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été les Pays-Bas en tant que tel. Évidemment, ils étaient derrière, il y avait même l'armée qui a beaucoup opprimé les Indonésiens. Mais la Compagnie des Indes, titre officiel de la présence néerlandaise, ne se préoccupait guère de répandre sa langue. Elle répandait quand même sa culture et bon, il y a des gens qui ont appris, mais bon, ce n'était pas son principal objet. Cela dit, le néerlandais, en dehors de la grande entreprise indonésienne, de ce qu'on appelait autrefois l'insulinde, et aussi d'Aruba et de Curaçao, qui ont pour langue officielle le néerlandais encore aujourd'hui. Aruba est une partie du territoire néerlandais, comme vous savez, toute petite île des Antilles.
Bon, puis il y avait Macao, etc.
Macao, alors c'est portugais, pas néerlandais.
Ah oui, d'accord.
Et lusophone, c'est encore lusophone.
C'est encore.
Mais surtout chinois, à vrai dire, sinophone plus que lusophone. Mais enfin, il n'y a pas eu vraiment de diffusion mondiale. Quant à la Grèce, il n'y a aucune diffusion mondiale, et les titres du grec d'aujourd'hui à avoir un prestige comme langue européenne, ce sont pour l'essentiel ceux du miracle grec du 4e et 5e siècle avant l'ère chrétienne.
Oui,
ça. C'est vrai. Bien que, comme vous savez, les élites grecques d'aujourd'hui souffrent assez impatiemment la vision que les intellectuels français ou allemands ont souvent de la Grèce à travers la Grèce ancienne. Il y a une Grèce vivante aujourd'hui, il y a un dynamisme économique indéniable, et les Grecs veulent être reconnus pour ce qu'ils sont existants aujourd'hui. Seulement, vous comprenez, 4 siècles d'occupation ottomane et l'Église orthodoxe ont beaucoup changé le visage de la Grèce classique.
C'est
plus tout à fait le même.
Oui. Mais pour en revenir aux Néerlandais, vous qui connaissez le Cameroun, n'est-ce pas, j'ai un très bon collègue et ami, Réchir, qui est spécialiste des Macas du Cameroun, qui a écrit. Mais il m'a dit, j'ai écrit sa thèse, il l'a écrite en néerlandais, j'ai écrit dans une langue que personne ne parle. Et donc, il écrit tantôt en français, tantôt en anglais, pour être sûr d'être lu. N'est-ce pas ? Il écrit très bien français, le français, je dois dire, admirablement. Alors, d'ailleurs, c'est ce que je répondais quand j'étais professeur à l'Université de Haute-Bretagne et qu'on me réclamait l'usage du breton, du celte. D'ailleurs, il y en a plusieurs et ce n'est pas simple. Mais je leur disais, de toute façon, si vous parliez breton, vous seriez obligé de faire comme les Néerlandais, c'est-à-dire d'apprendre plusieurs langues autres, comme la plupart d'entre eux parlent allemand. D'ailleurs, c'est un dialecte allemand, si on veut. Et puis, le français, l'anglais, bon.
C'est une langue germanique.
Oui.
Ben, quoi qu'il en soit, il y a le danois, bon. Alors, les Danois, une chose qu'il est bon de rappeler, parce qu'on n'y pense jamais, les Danois sont très malins, parce qu'ils évitent trop, personne n'en parle, et puis le Groenland est encore un territoire danophone et une colonie danoise. Et il y a des représentants du Groenland au Storting, c'est-à-dire au Parlement de Copenhague.
Oui, oui.
Bon. Et donc, le Danois est présent ailleurs que son tout petit territoire. Est-ce un titre pour que le Danois soit une langue importante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le Danemark est entré assez tôt dans la communauté, comme vous le savez. Mais voilà enfin... donc, avec danois, néerlandais et grec, les langues autres que les grandes de l'Europe
oui.
qu'on a citées, qui auraient quelques titres à être prises en considération comme des langues de choix autres que les langues occidentales.
Oui, mais le Groenland est très peu peuplé. Hein.
Il est très peu peuplé, mais c'est quand même un immense territoire qui n'est pas...
Mais il paraît immense sur les cartes à cause des projections
oui, c'est vrai, c'est
qu'on
vrai.
En fait. En
c'est
réalité.
Vrai, il l'est moins. Mais enfin, c'est un territoire dans lequel il y a d'énormes productions d'huile, de textiles, de filasse, et ça n'est pas un territoire nul sur le plan économique.
Ah, ben, j'ai...
Et le Danemark est très discret là-dessus.
Oui.
Bon. On n'en parle guère.
Oui, non, mais enfin, j'avais interviewé là aussi un Togolais qui était allé au Danemark. C'était le premier noir qui venait. Il avait eu un succès fou sur tous les plans, j'aime bien vous dire.
Et, un succès ?
Ben oui.
Parce que certains disent que le Danemark, que la population danoise, c'est très homogène justement, et peu habituée aux gens d'origine extérieure, et est un peu xénophobe.
Ben oui, mais enfin,
ou xénophile quand il y en a
c'est
qu'un.
Quand même c'est quand même le roi du Danemark qui avait mis l'étoile jaune.
Non, ça c'est vrai.
C'est admirable. La xénophobie
n'est pas oui. la même chose que l'antisémitisme.
Oui, oui. C'est vrai.
Les Danois se sont comportés avec dignité, leur roi surtout,
oui.
Par rapport aux Juifs et aux nazis, c'est très vrai. Mais c'est autre chose que la xénophobie de gens vraiment très différents qui n'ont pas la même couleur.
Oui, mais alors là, en tout cas, sa réputation à ce Togolais l'avait précédée. Et à son arrivée, je ne sais pas, à Massalik, etc., il y avait une foule pour l'attendre sur le port. Et on se disputait sa présence. Et quand je lui dis, est-ce que tu as envie de retourner là-bas? Et il m'a dit oui, parce que j'y ai des enfants. Des petits métis.
L'homogénéité peut entraîner des réactions de solidarité par rapport aux gens hétérogènes. Par exemple, ça n'a que peu à voir, mais ça un petit rapport à ce que vous dites d'amusant, mon cher. Un jour à Tokyo, j'étais sur le trottoir d'une grande avenue, et à Tokyo, il n'y a que des Japonais, ou à 99%. Et puis brusquement, je vois quelqu'un me faire de grands gestes sur un autre trottoir. C'était un noir que je ne connaissais pas, et qui me fait des grands gestes, qui me dit de traverser, on traverse tous les deux, on se trouve au milieu de la chaussée pour se rencontrer, on se serre la main, sans dire grand-chose, ce noir, voyant un autre, non noir mais pas jaune, était ému de voir dans ce pays où il n'y a que des Japonais, quelqu'un d'autre.
Oui. C'était l'union de l'étrangeté.
Oui, absolument.
Oui, ça. Mais,
solidarité de l'exotisme.
Cela dit, j'ai aussi le fils de mon ami Tarditz qui a épousé une japonaise qui vit là-bas.
Tarditz ?
Oui.
Mais il est marié depuis longtemps avec Lodie Tarditz.
Attendez, il a un fils
oui.
qui maintenant doit avoir 40 ans.
Ah d'accord, d'accord.
Et qui s'est marié au Japon.
Ah d'accord,
il faut
d'accord,
dire pardon. Que c'est le destin d'un ethnologue ouvert à, toutes les, à
oui.
tous les vents. Ses
oui.
deux fils ont chacun fait des mariages exotiques en leur genre, c'est-à-dire que l'autre a épousé une Bulgare.
C'est très amusant ce que vous me dites, parce que j'ai un jour entendu le même dont vous parlez, parlant de un de ses élèves qui était follement amoureux d'une Philippine, très mignonne, dire « quand on fait du terrain comme ethnologue, c'est très bien, mais il ne faut pas épouser les tropiques. »
Eh bien, en tout cas...
Ses fils l'ont fait.
Ses fils l'ont fait. Ce ne sont pas spécialement les tropiques, puisque c'est des pays il fait même froid.
Et puis alors, épouser les tropiques, il y en a que ça ne dérange pas.
Bien sûr. Non, je veux dire que Manuel Tarditz, ce fils aîné de Claude, lui, ne peut plus vivre en France parce qu'il a l'impression que les Français ne font rien. N'est-ce pas ? Sont essentiellement paresseux. Et dès qu'il est en France, il ne rêve que d'une chose, c'est de retourner au Japon pour reprendre son rythme de travail.
Ah, s'il compare à d'autres pays que le Japon, les Français n'apparaîtront pas comme paresseux. S'il les compare aux Japonais, oui.
Ah oui.
Mais d'un autre côté, les Japonais, bon, c'est pas le débat, mais c'est intéressant,
c'est excessif.
Sur le plan culturel.
Oui.
Les élites japonaises qu'on a ici, artistes, écrivains, intellectuels, viennent ici parce que l'hyperactivité, l'hyperproductivité du Japon, dont l'arrière-plan est une vie morose, ils ne la supportent plus.
Exactement.
C'est aussi ça, le Japon.
Non, je veux dire que par contraste avec Manuel Tarditz, je connais bien sûr un certain nombre de Japonais, et surtout de Japonaises, qui ne peuvent plus retourner,
plus,
non, se supportent plus de retourner chez eux.
Alors certainement, par rapport à eux, les Français qui ne sont pas spécialement paresseux peuvent très bien apparaître comme paresseux. Parce qu'ils ont un art de vivre en France.
Oui.
Un plaisir de vivre. C'est un autre débat.
C'est un autre débat, malheureusement. Eh bien, bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce que vous nous avez dit de si intéressant?
Eh bien, mon cher, que si je me peux permettre de citer un ouvrage récent, paru au début de 2006, intitulé « Combat pour le français ». C'est une sorte de synthèse de tout ce qu'on a dit,
oui, c'est
dont le sous-titre, en accord avec l'éditeur Odile Jacob, « Combat pour le français », en sous-titre « Au nom de la diversité des langues et des cultures ».
Et oui, c'est ça,
ça résume
paradoxe.
Bien le sujet.
Oui, oui, ça.
Le combat pour le français n'est pas un combat pour le français en soi. La France n'en a plus les moyens, on n'est plus à l'époque coloniale, on n'est plus bon. Mais le combat pour le français est un combat en faveur de la diversité, puisque s'il réussissait vraiment, il apporterait la preuve que d'autres choix possibles que le rouleau compresseur et le défi mortel de l'uniformité que représente l'américain demeurent possibles.
Je vous remercie au nom des auditeurs de Canal Académie, Charles Daugège, de nous avoir accordé cet entretien que, pour ma part, j'ai trouvé extrêmement sympathique et constructif.
Merci cher Philippe.